Histoire Actualité comme tous les vendredis, actualité des fictions d'histoire en ce premier vendredi du mois au programme cinéma, roman et bande dessinée. Pour ce débat sur les fictions d'histoire, sont réunis ce matin autour de la table du studio 108 Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire, Pascal Horry, professeur d'histoire à Paris 1, Fabrice Almeida, professeur d'histoire à Paris 2 et Clyde Plumosine, secrétaire général du LABEX, écrire une histoire nouvelle de l'Europe. Au programme de ce matin, pour commencer, le film Au revoir là-haut, le film d'Albert Dupontel tiré du prix Goncourt 2013. Écrit par Pierre Lemaître, puis Juan Gabriel Vázquez, auteur au seuil d'un roman fascinant, Le corps des ruines, qui plonge dans l'histoire récente de la Colombie, son pays. Enfin, une bande dessinée très particulière, conçue par Raphaël Messant et publiée chez Delcourt, Les damnés de la commune, une enquête à la recherche d'un communard appelé Lavalette. Et comme chaque vendredi, nous terminerons cette émission par notre séquence désormais traditionnelle, séquence en partenariat avec Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. C'était à la une aujourd'hui un texte de 1861 du grand Jules Vallès. Bonjour à vous, Clyde Plumosil.
Bonjour, Emmanuel.
Bonjour à vous, Fabrice Dalméda.
Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, Pascal Horry.
Bonjour, Emmanuel.
Et bonjour, Victor Massé de l'Épinay.
Bonjour.
Alors, nous commençons donc cette table ronde de fiction de ce vendredi par l'adaptation cinématographique d'un roman que nous avions beaucoup aimé ici même, un roman de Pierre Lemaître, donc, qui était devenu prix Goncourt en 2013. Au revoir là-haut. Alors, tout le monde attendait évidemment au tournant celui qui allait adapter ce roman baroque foisonnant, racontant une sorte de double arnaque au cœur de l'après-Première Guerre mondiale. Et en l'occurrence, eh bien celui qui s'y est collé, c'est le cinéaste et acteur Albert Dupontel, qui tient d'ailleurs le rôle principal de Maillard dans cette fiction d'histoire donc au cinéma, et qui raconte donc une bonne partie de ce roman tel qu'il a été écrit par Pierre Lemaître. Et avec l'aide de Pierre Lemaître, eh bien il transforme légèrement l'action de Au revoir là-haut. Nous allons en parler avec nos quatre invités de ce matin. Qui veut commencer à propos de Au revoir là-haut ce matin, Clyde Plumosil?
Alors peut-être juste quelques éléments pour décrire l'intrigue du film. On est juste avant l'armistice, au départ de ce film. Deux poilus sont blessés lors d'une dernière offensive qui est totalement inutile, qui montre un peu l'absurdité de la Grande Guerre dans sa folie meurtrière. Albert, modeste comptable, qui est incarné par Dupontel, qui va s'en sortir, lui, avec quelques égratignures après quand même avoir été enterré vivant. Et puis Édouard, fils rebelle de bonne famille, qui est incarné par Nahuel Pérez Biscayart, le héros de 120 battements par minute, et qui est absolument génial, autant que Dupontel d'ailleurs, dans ce film, et qui, lui, va finir gueule cassée. Et donc, après l'armistice, le premier, désormais chômeur, va faire croire à la mort du second et organiser avec lui donc une arnaque juteuse, puisque les deux complices vont se faire payer très cher pour concevoir des monuments aux morts qui ne seront jamais construits. Alors, moi, je l'ai absolument adoré, mais confession honteuse tout de suite, je n'avais pas lu l'ouvrage. Donc j'ai été prise et happée dans cette espèce de grand spectacle romanesque, avec des héros brisés qui tentent de se reconstruire, un salaud redoutable qu'on est très heureux d'haïr, incarné par Laurent Lafitte, et puis des personnages secondaires très typés. En fait, on a l'impression d'une galerie d'archétypes sociaux de la société d'après-guerre, assez géniaux pour comprendre un peu ce qui se joue dans ce temps de sortie de guerre. Après, voilà, juste une petite remarque pour commencer le débat. Je remarque qu'il n'y a pas vraiment de personnage féminin fort et que ça montre que la guerre, c'est une histoire d'hommes et que les femmes viennent soutenir ces héros tragiques et blessés, mais ne viennent pas véritablement porter l'intrigue. Ça aurait pu être quelque chose que...
Lors de la prochaine table ronde, nous aurons à nouveau un film sur la Première Guerre mondiale, car ils sont nombreux, qui s'appelle Les Gardiennes et qui montre justement comment des femmes ont gardé, d'une certaine façon, la France, donc, et en particulier la France rurale, tandis que les les hommes étaient montés au front. Effectivement, on peut noter le nombre très important de films qui se situent dans cette période de la Première Guerre mondiale. On peut se demander d'ailleurs si la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale n'est pas pour quelque chose dans la résurgence de cette période historique dans notre contemporain. Pascal Horry.
Comme l'a bien résumé Clyde, Pierre Lemaître avait écrit pour moi un roman feuilleton. J'avais l'impression de me replonger dans Eugène Sue, quoi, avec des méchants bien typés, un happy end mais mélodramatique, enfin, et le film en rend bien compte. Hein, je crois qu'on trouve un grand plaisir au spectacle, puisque c'est un film à gros budget, grand spectacle, et qui nous prend, parce que ça pourrait être complètement raté dès le début, puisque évidemment la séquence initiale qui se passe dans les tranchées, et puis d'ailleurs quand on sort des tranchées, est absolument saisissante, très très réussie. Mais en même temps, on sent bien qu'il y aura le méchant absolu, il n'y a vraiment rien pour qu'il puisse le sauver, et de scène en scène. Et puis, des personnages alors qui sont d'une certaine complexité, parce que là, en revanche, c'est vrai que le fils de famille et puis le comptable vont monter aussi une escroquerie. Hein, puisque c'est ça la particularité de l'intrigue. On va pas entrer dans le détail pour les auditeurs qui n'auraient pas lu le livre de Lemaître et qui n'auraient pas encore vu le film. Il y a eu aussi une adaptation en bande dessinée, hein, d'ailleurs, de Lemaître il y a quelques années, qui était moyennement convaincante, je pense. Mais, bon, ils montent une escroquerie, c'est-à-dire qu'en même temps, ils ne sont pas, eux, absolument blancs. Et c'est un peu à l'image, évidemment, d'une société qui peine à se reconstruire, etc. Évidemment, on est quand même très, très convaincu par la dimension esthétique du film. Ce qu'on n'attend pas forcément de Dupontel, que je considère personnellement comme un des grands auteurs de cinéma français, souvent méprisé par la critique chic, et qui là, clairement, alors aidé bien sûr par d'excellents opérateurs, par des drones et tout ce qu'on veut, mais enfin avec les moyens du bord, construit un film fantastique. Parce que je parlais de romans feuilletons.
Des reconstitutions absolument
étonnantes. On se demande comment ça a été fait. Maintenant, on ne se demande plus, puisqu'on sait qu'on peut tout faire en studio, quoi. Mais même sur ordinateur, c'est même plus du studio, c'est de l'ordinateur. Et une dimension fantastique qu'on peut retrouver chez Eugène Sue ou Alexandre Dumas quand on gratte bien, grâce au masque. Oui. Parce qu'il y a quand même un mot à dire et qui devrait faire affluer les auditeurs dans les salles, les masques. On ne va pas entrer dans le détail, mais là...
C'est une gueule cassée, c'est une gueule et donc cassée, il faut qu'il se cache sa gueule cassée, justement.
Alors, rendons hommage, je vais me lancer, à Nahuel Pérez Biscaya, j'ai bien prononcé son prénom et son nom, parce que effectivement, l'enjeu pour lui, c'est de ne parler que par borborygme et d'être presque complètement masqué d'un bout à l'autre. Et les masques sont en eux-mêmes des œuvres d'art. Il faut saluer d'ailleurs l'auteur des masques.
Oui, Clyde Plumosil, et puis ensuite.
Je me permets juste de rebondir sur cette question des masques qui sont vraiment l'artefact un peu fascinant du film et qui en fait permettent de voir à travers eux toute la culture populaire de cette société d'après-guerre. Hein. Donc c'est vraiment un témoignage. Pour le coup, c'est le témoignage peut-être même le plus historique du film parce que Albert Dupontel avait bien dit qu'il voulait pas faire un film sur la guerre d'une certaine manière.
Fabrice Dalméda.
Oui, c'est peut-être, on pourrait revenir, l'élément qui qualifie le plus, j'allais dire, l'actualité du film. Parce que, au fond, si on essaie de le replacer dans la filiation des grands films de la Grande Guerre, il y a quand même celui qui a repassé, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps sur Arte, Les Sentiers de la Gloire. Kubrick, 1957, noir et blanc. On se promène dans les tranchées, on est à hauteur d'homme, à corps d'homme, et on a une vision, j'allais dire, réaliste, mais pas forcément terroriste de la guerre. Je m'explique. Il y a eu un autre film depuis, en 2004, Un long dimanche de fiançailles. Et pour moi, l'esthétique de ce film et celle du film de Dupontel sont totalement liées. C'est-à-dire que l'esthétique fondée par Genet, moi je crois, elle a totalement renouvelé la vision qu'on avait de la guerre à partir d'une idée, c'est-à-dire que le conflit s'exprime par ces points extrêmes, c'est-à-dire les corps déchiquetés, les explosions, la violence, l'assourdissement.
Il faut se souvenir aussi de Capitaine Conan, qui était aussi dans cette...
Mais alors Conan était resté, j'allais dire, quand même dans un réalisme raisonnable, c'est-à-dire que c'était moins l'effet spécial. Le long dimanche de fiançailles, on est justement dans le plan grue, dans les déplacements de caméra, il y a déjà...
Parce que la technologie le permet aussi.
Voilà, il y a un changement qui s'est déroulé entre les deux, et je pense aussi que Tavernier, avec Conan, il voulait garder quelque chose qui était « j'ai tué les hommes à main nue ». Il y avait ça.
Et alors je les ai égorgés à main nue.
Voilà. Aussi, alors que dans l'autre, dans Un long dimanche de fiançailles, c'est la mine qui explose, c'est le zeppelin qui explose, etc. Et donc cette esthétique-là, on la retrouve. Mais ce qui m'a paru, alors là, je suis d'accord avec vous, très intéressant dans ce film et qui est un peu différent du livre, parce que le livre ne pose pas la question de l'incarnation. Or le film la pose. Il la pose avec les seconds rôles. Nils Sarrestrup, comme toujours. époustouflant. C'est un film de second rôle. Ce Dupontel, à la limite, est même lui-même un second rôle par rapport au personnage principal. Donc, c'est un film de second rôle, Neil Sarastrup, excellent. Laurent Lafitte en salaud. Mais Laurent Lafitte est un génie, c'est un grand acteur. Je ne m'en étais pas aperçu jusqu'à ce point-là. Il est exceptionnel, ce garçon. Et là, il y a cette question des masques. Et justement, tout l'intérêt du film, c'est que ceux qui portent des masques sont en réalité celui qui porte des masques et celui qui en réalité dévoile l'univers. Mmh. Et au fond, le film dirait d'une certaine manière « bas les masques de notre époque sur le conflit, sur la guerre, sur les interventions extérieures, sur l'écrasement, sur la domination ». Et effectivement, comme l'a dit Clyde, juste dernière phrase Emmanuel, le test de Bechdel. Oui. Vous savez, cette dessinatrice américaine qui dit « on va voir si un film est respectueux des femmes, s'il y a dans le film au moins deux femmes qui parlent entre elles et qui, quand elles parlent entre elles, ne parlent pas des hommes ». Voilà.
Victor Massé de l'Épinay.
Alors, je partage beaucoup de choses qui ont été dites. Aux acteurs étonnants, je rajouterais Vuillermoz en fonctionnaire.
Ah oui. Le rond de cuir.
Qui est extraordinaire. Ceci dit, je vais faire un peu le rabat-joie de la table ronde aujourd'hui.
L'avocat du diable.
Moi, je n'avais pas lu non plus le roman de Pierre Lemaitre, mais je l'ai lu quelques jours avant d'aller voir le film. Donc, il était très présent dans mon esprit quand j'ai vu le film, et j'ai commencé par être frappé par toutes les différences qu'il y a, qui sont assez importantes, puisqu'en fait, presque tous les personnages terminent différemment. Leur fin est différente de celle du livre. Certains meurent alors qu'ils ne meurent pas, certains survivent d'une façon... différentes. Bon, ça, on peut éventuellement le
d'autant
comprendre.
D'autant que Pierre Lemaitre a collaboré au scénario.
D'autant que Pierre Lemaitre a collaboré, alors peut-être qu'il y a rien à dire de ce côté-là. À mon avis, il y avait quand même deux choses très importantes dans le livre de Pierre Lemaitre qui ne sont pas bien rendues dans le film. La première, c'est la mécanique des arnaques. Alors, c'est difficile de rendre ça au cinéma, mais c'est quand même particulièrement bien construit, bien amené, avec des rebondissements. Il y a quand même une tension très forte. Là, on arrive
dans
très vite. L'arnaque est bien ficelée, elle tombe
ça
bien
marche.
Vite, ou bien, oui, mais ou bien elle réussit très vite.
Là où tu as raison, c'est que c'est le sujet du roman, c'est pas le sujet du film.
Oui. Alors,
peut-être, mais alors...
Le sujet du film, c'est le masque.
C'est les sentiments.
Mais alors, la deuxième chose quand même qui était très présente dans le roman, c'est cette question des morts dans les années 19 et 20 et de la place des morts dans la société. Ça, c'est quand même très présent dans le livre. Des morts et donc des vivants qui, les anciens combattants vivants, sont finalement ratés, chômeurs, complètement oubliés par la société, qui veut glorifier ces morts. Il y a tout, donc les arnaques sont autour des monuments aux morts ou des cadavres.
Des enterrements des cadavres.
Et des dépouilles des soldats. Et ça, j'ai trouvé que c'était cette dimension historique très bien sentie dans
c'est
le
vrai.
Livre.
Ouais. Était moins présente
à l'écran, et je trouvais ça dommage.
Pascal Horry, Clyde Plumosine.
Un détail et puis une question plus fondamentale. Le détail, c'est que quand le livre de Pierre Lemaitre est sorti, personne n'a évoqué Alexandre Vialat, qui dans plusieurs ouvrages était revenu sur les arnaques autour de monuments aux morts. Je le signale. Bon. Rendons hommage au grand Alexandre.
Toujours. Et lisons La Montagne.
Voilà. Et Allah est grand.
Voilà.
Par ailleurs, est-ce qu'on peut sortir de ce film avec une lecture politique? Je me le suis posé à l'ancienne, parce que je suis un vieillard, mais plus personne ne se pose ce genre de questions aujourd'hui. Et le résultat qui me plaît, c'est que c'est très ambigu. Et que c'était déjà un peu le cas chez Lemaitre, mais c'est encore plus ambigu. C'est-à-dire qu'on commence sur Tardy. Alors, c'est-à-dire que là, vraiment, la guerre, grosse malheur. Ouais. Et puis, c'est l'officier qui... Bon, voilà, donc c'est la caricature à la Tardy. Mais après, le personnage de Nils Arestrup est extrêmement complexe, parce que c'est à la fois un grand capitaliste, supérieurement intelligent, entouré d'imbéciles, mais il est quand même supérieurement intelligent. Et c'est le personnage politiquement le plus fort. Donc, je pense que... C'est un peu la situation 21e siècle que l'on a. Je suppose qu'en 1970, on n'aurait pas eu un personnage aussi positif du côté du grand capital.
Ah, mais Dupontel a fait une sortie assez sévère dans l'analyse de la Grande Guerre. Pour lui, c'est quand même l'outil qui a été utilisé pour la répression prolétarienne. Donc, Arestrup,
oui,
c'est le banquier.
Mais ça, c'est le standard. C'est ce qu'on dit majoritairement depuis déjà plusieurs décennies. Et là,
c'est plus compliqué. C'est vrai que par rapport à ce qui vient d'être dit, je rejoins tout à fait les propos de Victor Massé de l'Épinay. Moi, je suis allée voir le film avec Clémentine Vidal-Naquet, qui est spécialiste de la Grande
Bien
Guerre.
Sûr.
On a adoré ce film. On est sorti, on s'est dit, en fait, c'est pas un film sur la crise de l'après-guerre. La narration, elle est très intimiste, elle est à hauteur de personnages, au ras des corps. Et au final, on voit pas tant une société qui se reconstruit que le parcours un peu de ce couple improbable de poilus. En revanche, ce qui est très fort chez Dupontel, c'est la dénonciation de l'hypocrisie de cette société au sorti de la guerre.
D'après-guerre.
C'est-à-dire qu'on honore ses morts, mais on rejette ses vivants. Et du coup, on aurait aimé peut-être un peu plus comprendre ce besoin mémoriel, néanmoins, qui jaillit à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et pourquoi, du coup, cette arnaque, elle peut prendre si facilement.
Mm-hmm. Oui, y compris l'importance économique, puisqu'en effet, toutes ces questions de dépouille, ça génère des entreprises qui naissent et qui ont des profits parfois très importants. Une chose encore sur les personnages, puisque dans le livre, il me semble que quand même beaucoup de personnages sont beaucoup plus présents et beaucoup mieux dessinés, y compris les femmes. La femme du méchant capitaine Pradel, dans le film, on la voit qui répudie son mari parce qu'il la trompe, ce qui est le cas. Mais c'est quelque chose de sourd, c'est un mouvement assez long dans le roman où on voit que ce type est vraiment une horreur et que sa femme s'en détache peu à peu. Et ça, c'était bien rendu. Une autre subtilité, mais en est une qui n'est pas dans le film, c'est l'homosexualité du jeune garçon, du jeune gueule cassée, qui dans le livre donc est très brouillé avec son père. Cette homosexualité qui n'est pas décrite de façon très brutale dans le livre, mais qui est quand même bien affirmée, est complètement gommée dans le film, je ne sais pas.
Mais taillée dans les masques.
Oui, mais à la limite, on voit le film. Alors, on pourrait le voir sans connaître le roman, qui a sa propre logique. On va en parler à propos de Vasquez. Les deux conseils que je donnerais aux auditeurs, c'est premièrement, cherchez Buster Keaton dans le film.
Oui.
Deuxièmement,
gros canari
cherchez le rôle métaphorique de la viande hachée.
Alors là, je suis pas sûr d'avoir suivi Pascal. Mais non, ce qui m'a frappé, parce que pour voir le côté un peu actualité, parce que il y a un rapport à l'actualité quand même. Moi, j'ai été très frappé aussi de la manière de mettre en scène les minorités. Parce qu'il y a justement un jeu sur le racisme. On va mettre un nègre dans le caveau de famille des bourgeois. Il y a ces Tonkinois ou ces Annamites qui sont venus à la faveur de la guerre, qui doivent être ceux qui doivent gérer les dépouilles. Ensuite, on part dans les colonies, la vision de l'Empire, et on se retrouve quelque part au Maroc. J'ai trouvé que là-dedans, il y avait quelque chose qui était effectivement un peu... Alors, est-ce que c'est les leçons, j'allais dire, pour le coup, du cinéma façon indigène qui reviennent? Mais j'ai trouvé que ça, c'était peut-être beaucoup plus actuel et c'était pas les problématiques qu'on aurait eues au moment de Kubrick ou qu'on aurait eues même il y a encore 15-20 ans.
Moi, je voudrais quand même saluer quelque chose chez Pierre Lemaitre qui est, comme l'a très bien dit d'ailleurs Pascal Horry, d'avoir remis au goût du jour le roman feuilleton et surtout d'avoir créé des personnages qui vont nous accompagner longtemps. C'est-à-dire que, un peu comme le Jean Valjean ou comme des héros de romans du 19e siècle, je pense que Albert Maillard continuera à accompagner une génération de ceux qui ont lu d'abord le roman de Pierre Lemaitre et ensuite qui ont vu le film d'Albert Dupontel, parce que ce sont des personnages forts qu'on aime d'une certaine façon, qu'on aime aimer, et ça je trouve que c'est assez remarquable dans le travail de Lemaitre et aussi dans celui de Dupontel, Claude Plumosi.
Quel bel éloge.
Oui. Non mais c'est vrai.
C'est aussi l'éloge de la fiction. Ouais. On est là pour parler de la fiction, et il faut quand même reconnaître que quelquefois on voit naître comme ça des personnages dont on se sépare difficilement.
Mais je crois qu'en plus on aime les aimer d'autant que ce film c'est celui de la branche basse de la société. Ouais. Hein, je reprends une des phrases de
et qui était dans le roman aussi.
Ouais. Voilà, quand on lui demande dans quel secteur d'activité il est, dans quelle branche d'activité, il dit la branche basse. Et voilà, et ça, c'est vraiment je pense que c'est toute la force aussi du film de Dupontel, c'est faire cette histoire, voilà, cette histoire des sans-voix. Il y a eu toute une semaine à la fabrique sur ces questions-là, et je trouve qu'il l'a fait avec force et délicatesse pour dénoncer le cynisme d'une société sur fond de lutte des classes, incarnée entre le rapport entre un père et son fils.
C'est ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, c'est que dans ce film, on a des caricatures de position, mais on a des personnages qui ont chacun une chance. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart d'entre eux connaissent une révolution. Connaissent une révolution interne. Sauf, j'allais dire, peut-être le salaud.
Oui, quand même,
qui est
là,
seul,
je vois pas de révolution
qui
chez
est seul
le salaud,
qui reste jusqu'au bout le même. Oui. Mais tous les autres, à un moment ou à un autre, sont mis face à eux-mêmes et doivent se retourner jusqu'à la scène finale.
Enfin, ma petite nuance sur la lutte des classes, c'est que quand même, le héros central joué par Nahuel, etc., c'est quand même un artiste. C'est-à-dire qu'une fois de plus, la propagande n'est pas en faveur du prolétariat, mais de la classe artiste.
Merci. Donc, on a parlé de Pierre Lemaitre et son roman Au revoir là-haut, qu'on peut toujours conseiller à ceux qui ne l'ont pas encore lu, et donc qui a été prix Goncourt 2013, et du film qui en est tiré donc par Albert Dupontel et qui est dans les salles pour l'instant.
Señor Presidente,
ces propos furent prononcés à Bogota par Jorge Elicer Gaitán le 7 février 1948. Il dénonçait les violences que subissaient de nombreux Colombiens. Cette manifestation témoigne de son immense popularité. Cet homme avait choisi comme signe de ralliement à la carga, à la charge. une révolte qui gênait. 61 jours plus tard, il sera assassiné.
Rafael Víctor Zenón Uribe Uribe nació en Valparaíso, Antioquia, en 1859 y murió asesinado en Bogotá el 15 de octubre de 1914. Uribe Uribe es más conocido por su ideario político a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo y sindicalista en Colombia.
Les derniers instants du président Kennedy ont été filmés par Abraham Zapruder, qui a tourné ces images. Le président est d'abord touché à la gorge, puis le coup de feu mortel lui traverse la boîte crânienne. Le gouverneur Connolly est également blessé. La limousine fonce vers l'hôpital.
Des extraits d'archives, mais également d'un documentaire qui s'intitulait « La fin d'un rêve colombien, l'assassinat occulté de Jorge Eliezer Gaitán », donc par Michel Noll et Maria Valencia, pour nous introduire à la deuxième fiction d'histoire de cette table ronde de fiction. Aujourd'hui, donc, c'est un roman de Juan Gabriel Vázquez, « Le corps des ruines ». Au seuil, Victor Massel-Lépinet, vous nous le présentez.
Oui, il y a quelques jours, le FBI a déclassifié les archives concernant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et on a pu voir que les zones d'ombre existaient toujours et qu'elles étaient toujours réservoirs à fantasmes pour beaucoup de gens qui sont les tenants de ce qu'on appelle la théorie du complot. La théorie du complot, elle est au cœur de ce roman de Juan Gabriel Vázquez. Théorie du complot qui concerne surtout deux meurtres qui ont marqué l'histoire colombienne. Donc peut-être qu'il faut dire un mot de ces deux meurtres. Le premier qui est abordé dans le livre, 1948, Jorge Eliezer Gaitán, j'essaye pas de mettre l'accent comme vous Emmanuel, je ne suis pas, je ne parle pas espagnol.
Je suis pas sûr. Avec une pointe d'accent colombien.
Ouais, ouais, sûrement, ouais. Alors Gaitán qui était le
Gaitanicito, c'est comme ça qu'on dit en Colombie.
Le grand leader du Parti libéral qui était promis à la victoire des élections présidentielles de 1950 et qui est assassiné à coups de revolver en pleine rue en 1948. Son assassin est lynché par la foule et dans une flambée de violence qui inaugure un cycle de violence qui durera 12 ans, qu'on a appelé le Bogotazo pour une première partie, puis la Violencia qui a duré donc jusqu'en 1960. Le deuxième meurtre, c'est celui qui a eu lieu 34 ans plus tôt, de Rafael Uribe Uribe, dont on a entendu aussi le nom dans l'extrait qu'on vient d'entendre, qui a été tué, lui, à coups de hachette par deux menuisiers, le général et sénateur Uribe, qui était aussi une figure importante pour les Colombiens. Alors comment ces deux meurtres se trouvent-ils au cœur de ce roman de Juan Gabriel Vázquez? Eh bien parce que l'auteur rencontre un homme, Carlos Carballo, qui consacre toute sa vie à ces histoires, pour essayer de découvrir la vérité qui se cache dans ces zones, dans les zones d'ombre de ces meurtres, et il y en a. Et donc l'auteur se plonge avec ce Carlos Carballo dans ses dossiers et s'y noie en quelque sorte jusqu'à devoir écrire ce livre dont il écrit au tout début qu'il l'écrit pour expier des crimes dont il a fini par hériter alors qu'il ne les a pas commis. Ça c'est vraiment le point de départ du livre et on va se plonger dans ces meurtres, dans ces dossiers secrets. Et voilà, c'est le.
Alors, on peut dire que c'est quand même un roman pour historien. On peut dire qu'il est très inspiré de ce qu'on a beaucoup aimé ici dans les tables rondes de fiction, en particulier de Javier Cercas et du travail de Javier Cercas sur l'histoire troublée de l'Espagne au XXe siècle, et qu'il y a là effectivement de quoi découvrir l'histoire de la Colombie qui veut intervenir dans cette. Allez, Clyde Plumosil.
Je voudrais intervenir en lisant peut-être un extrait. Allez. Déjà, parce que la plume est magnifique.
Elle a dégainé. Hein. Et...
ouais, pas elle coupe l'herbe sous le pied de Fabrice Delmas.
Non, on s'est réparti les extraits.
On a tous un extrait.
Et chacun de nos extraits est situé dans le chapitre 9, le corps des ruines, qui porte le même titre donc que l'ouvrage, et qui montre bien en fait comment le roman est un instrument de spéculation historique pour Vázquez. Donc il dit « J'ignore quand j'ai commencé à me rendre compte que le passé de mon pays me semblait nébuleux et obscur, comme un terrain plongé dans les ténèbres. Et je suis incapable de me rappeler le moment précis où tout ce que j'avais cru vraiment fiable et prévisible, l'endroit où j'ai grandi, la langue que je parle, ses coutumes, son passé qu'on m'a enseigné à l'école et à l'université, son présent que j'ai pris l'habitude d'interpréter ou de feindre de comprendre, s'est mis à devenir un territoire peuplé d'ombres, d'où jaillissent des créatures horribles au moindre instant d'inattention. Avec le temps, j'en ai conclu que telle est la raison pour laquelle les écrivains s'intéressent aux lieux de leur enfance, de leur adolescence et même de leur jeunesse. On n'écrit pas à propos de ce qu'on connaît et qu'on comprend. On écrit d'autant moins sur certaines réalités parce qu'on les connaît et qu'on les comprend, mais au contraire parce qu'on s'aperçoit que toutes nos connaissances et nos compréhensions étaient fausses. Un mirage, une illusion, de sorte que les livres ne sont et ne seront jamais que des preuves élaborées de désorientation, de longues déclarations revêtant de nombreuses formes de perplexité. Moi, ça m'a particulièrement interpellée, ce passage, parce que je trouve que la pratique de l'histoire, c'est une pratique de l'inconfort.
Et du doute.
Et du doute. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on apprend toujours à nos étudiants de faire cette fameuse problématique, c'est-à-dire qu'aucun sujet n'est simple et que notre objet à nous, c'est de détricoter l'apparente simplicité des faits. Et c'est véritablement ce qui se joue dans ce roman et qui est un peu une forme de discours de la méthode, de comment on peut sillonner sur les sentiers escarpés un peu de ce qui apparaît comme la vérité historique. Et ce qui est intéressant, c'est que le roman, lui, il est dans cet entre-deux de vérité, entre la vérité officielle d'un pays qui n'a toujours pas fait le deuil de ses morts et la vérité officieuse de personnes qui, pour répondre à cette incompréhension et pour répondre aux origines de la violence de leur société, tentent d'élaborer des théories du complot. Mais au XVIIIe siècle, on aurait pu parler de rumeurs, par exemple. Mmh. Et donc, il ne faut pas disqualifier tout de suite cette question de complot, de rumeurs, puisqu'elles ont des fonctions importantes, je pense, notamment en termes de cognition des événements.
Et d'ailleurs, l'auteur, Juan Gabriel Vázquez, ne disqualifie pas justement ces questions de rumeurs, tout en se mettant en scène, et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, il joue une sorte de sincérité qui est évidemment fausse, parce que c'est un roman, où il se met en scène lui-même à l'intérieur de l'enquête qu'il est en train de mener, Fabrice Delmena.
Oui, il y a quelque chose comme des générations littéraires à questionner du point de vue du complot. Quand on revient au début du roman moderne, début du 19e siècle, des hommes comme Eugène Sue, dans les mystères
toujours
de Paris,
lui.
Le roman feuilleton, justement, on en parlait tout à l'heure. Il y a cette image au fond du groupe caché, les 13, Balzac. Il y a aussi ça.
L'histoire des 13.
Et puis, quand on vient plus près de nous, il y a toujours cette aventure. Moi, je pense toujours au grand roman d'Umberto Eco, que ce soit le pendule de Foucault, Baudolino, le cimetière de Prague, où il y a toujours cette question au fond du groupe secret qui, à un moment donné, se prend au sérieux. C'était un peu la problématique du pendule de Foucault. Là, la différence qui fait qu'on est dans un autre type de roman et qui échappe un peu à cette tradition, c'est justement l'entrée de l'enquête, au sens où c'est plus la poursuite. Hein, c'était un peu ça l'image du roman du 19e siècle. Là, désormais, c'est l'enquête et c'est l'enquête de celui qui ne veut pas la mener. C'est-à-dire que on lui apporte le dossier, il devrait le prendre avec joie. Au contraire, il répugne, il n'en a pas envie, il pose tous ses problèmes familiaux, mes enfants, mes jumelles, qu'est-ce qui se passe, mon père, mon passé, etc. Non, mais je dis ça parce que cette dimension auto-fictionnelle, je crois qu'elle est extrêmement importante. Et s'agissant justement de Juan Gabriel Vázquez, qui est, j'allais dire, le plus parisien des Colombiens, en exagérant un peu, mais parce qu'il a...
Plus européen, disons.
Voilà, mais il a vécu à Paris, il connaît bien la littérature française, je crois qu'il connaît bien, justement, les auteurs que j'ai cités. On voit bien à quel point, lui, il a à cœur de reprendre ses traditions littéraires européennes, colombienne, il cite énormément d'écrivains colombiens, sud-américains, et il a à cœur de fondre ça dans un récit où, au fond, il se met en scène, mais il se met en scène avec les doutes que nous avons nous-mêmes sur les complots. Parce que, disons-le, on a vu tous le film de Zapruder, et il y a tous un moment où on a cru à la théorie du complot sur l'assassinat de Kennedy. Il y a toujours un moment où on a cru à cette série étrange qui va de Kennedy à Luther King, en passant par le frère Kennedy. Donc on se dit, comment était-ce possible? On a tous pensé à la CIA et on a pensé au travail de Giovanni Sabatucci, historien italien, qui nous parlait de la ligne rouge de l'histoire italienne, entièrement tenue par les services secrets d'extrême droite. Donc on a tous cette espèce de...
Déviés.
Et il y a des moments...
Les services déviés, comme
on dit. Et il y a des moments, on a envie.
Oui, Pascal Horry, à propos de Juan Gabriel Vázquez, Le corps des ruines, paru au Seuil, et il faut saluer aussi, parce que je ne l'ai pas encore dit,
la traduction
qui est remarquable, d'Isabelle Gugnon.
On a tellement envie, pour reprendre les mots de Fabrice, que à la fin, il y a une justification géniale de la théorie complotiste qui serait la forme, moi j'ai traduit comme ça, j'ai traduit chacun sa traduction, comme la forme triviale de l'intelligence historique. On laissera les lecteurs lire au moins les pages à partir de la 491 où il y a la fameuse confrontation entre la vie...
Il m'a piqué ma citation.
Je la résume, donc je te la superpique, c'est-à-dire tu peux même plus la faire, entre la vision complotiste et la vision accidentelle. Non, alors, avant d'ouvrir le livre, d'une certaine façon, à cause de la rumeur des quatrièmes de couverture, on pense trouver ça, et on le trouve. Mais moi, alors, ce qui m'a fasciné, et j'ai même eu l'impression de lire quelque chose d'unique, page 142, que j'avais jamais encore lu dans un roman, c'est l'implication de l'auteur. je m'y attendais pas. Mm-hmm. Et d'autant plus que quand j'ai lu ce roman où il dit « j'ai rencontré Carvalho », etc., je me suis dit « il invente tout, quoi. Il a jamais... » Et puis en réalité, alors là, justement, quand on vérifie, parce que là, c'est pas parce qu'on a une lecture naïve, mais on s'informe, apparemment, il a vraiment rencontré un complotiste qui l'a amené sur ce chemin-là. Et puis, il y a un certain moment, vers le milieu du livre, il parle d'un certain RH, Raphaël Umberto, etc.
Un grand auteur.
Et je me suis dit, est-ce qu'il l'a inventé? Donc, on se précipite sur Internet. Il l'a pas inventé. Et il était sans doute présent aux obsèques. Et il y a un moment où, certainement, il nous entraîne ailleurs. Mais enfin, c'est effectivement presque pervers.
Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est très habile. C'est assez fort de faire la comparaison avec Umberto Eco, qui aimait beaucoup, justement, ce jeu de double et de triple fond.
C'est pour ça que ma citation se ramène à six mots, pardon. Mon livre, c'est page 496. Mon livre, tiret, six mots plus un tiret. Mon livre, tiret, le livre de Carvalho. C'est-à-dire, mon livre, moi, Vasquez, c'est le livre de Carvalho. Ça va très loin.
Et Carvalho, alors, donc c'est celui, ce fameux complotiste qu'il rencontre dès le début.
Et pourquoi est-ce que je dis que j'ai jamais lu quelque chose comme la page 142, me semble-t-il? 142, 143. C'est qu'il rencontre un personnage, enfin, donc c'est même Carvalho qui le lui dit, qui pilonne toute l'œuvre de Vasquez. En disant, mais votre œuvre est absolument nulle, je vous offre vraiment là l'occasion de vous racheter, parce que, regardez, pourquoi avez-vous perdu votre temps à ce genre de conneries? Ce sont les premières œuvres de Vasquez, d'après Carvalho. Alors, c'est de la frivolité, franchement, c'est idiot, alors qu'ici, il y a une guerre civile qui fait plus de 20 000 morts par an. Et alors, effectivement, quand on reçoit ça, quand Vasquez reçoit ça, c'est lui-même qui le lui écrit, ça ébranle. Alors ça, j'avais encore jamais lu
mais
ça.
Mais ça lui a été reproché quand il a publié ses premiers
ouvrages.
Hein.
Voilà.
Victor Massé de l'Épinay, à propos du Corps des ruines de Juan Gabriel Vasquez, un roman paru au Seuil.
Oui, de cette théorie de l'histoire qui rencontre les complotistes, parce que ce personnage de Carvalho est intéressant, parce que ce n'est pas du tout un imbécile, c'est pas, il a quelque chose de dingue, il se consacre toute sa vie au meurtre de Gaëtan, on comprend à la fin que son père, lui, a aussi travaillé sur ces questions. Mais il y a un moment, alors moi j'ai aussi ma citation, je vais pas la lire en entier, mais il explique sa théorie de l'histoire en disant « Il y a d'autres vérités qui ne sont pas publiées dans les journaux, qu'on n'en soit pas informé ne les rend pas moins vraies. Elles sont peut-être survenues dans un endroit bizarre, inaccessible aux journalistes et aux historiens. Que fait-on de ces vérités-là? Où leur ménage-t-on un espace pour qu'elles puissent exister ? On les laisse pourrir dans les limbes uniquement parce qu'elles n'ont pas été révélées correctement ou que des forces qui les dépassaient les ont enfouies. Certaines vérités sont infimes, fragiles comme un bébé prématuré. » Et là, je reviens à ce que Fabrice d'Almeida disait, puisqu'en effet, tout le long du livre, on a quand même cet auteur, Vasquez, qui a ses deux petites jumelles, la fin de grossesse prématurée, compliquée de sa femme, puis une naissance prématurée, et pendant un moment, on ne sait pas si elles vont pouvoir vivre, elles sont en couveuse. Et donc, le fait de rapprocher ces vérités historiques qui finalement n'ont pas vu le jour de bébés prématurés, qui n'en sont pas moins des personnes qui ont existé, qu'on peut aimer, j'ai trouvé ça très intéressant comme parallèle, et voilà, j'ai trouvé que c'était...
On est assez proche aussi d'ailleurs des travaux de Sebald, avec l'intégration dans ce roman de documents que le lecteur peut consulter en même temps qu'il lit le roman, et donc qui ont une allure de vérité, en l'occurrence ces documents, parce qu'ils sont justement supposés être des documents d'histoire.
Oui, l'accréditation par l'objet, d'une certaine manière, c'était très fort, ça, chez Sebald. Et il y a un peu de ça, effectivement, quand il nous sort les photos de restes humains ou de documents. Et c'est vrai qu'en même temps, ce qu'il y a de fascinant et qui fait ça, de ce roman, quelque chose de très actuel, et en même temps, je pense, de quelque chose qui peut durer, c'est qu'il y a à la fois l'intégration d'éléments très anciens, d'archives, de lettres, de correspondances, et puis il y a Internet. Il y a Internet et il y a même des mélanges de styles qui renvoient à ça.
Oui.
C'est pas 161, moi, il y a le passage qui m'a fait le plus rire. Parce que le roman, il faut le dire, il est à la fois entre le tragique, l'enquête, il y a un côté polar, et puis il y a un côté extrêmement drôle, humoristique, qu'il y avait aussi chez Lemaître, il faut le rappeler par moment. Et donc là, il y a un passage où il y a le fameux personnage envoie un mot en disant « je vais renoncer à faire le livre ». Il est très littéraire, il prend toutes les précautions pour prévenir le complotiste qui va arrêter. « Votre proposition ne m'intéresse pas, je ne veux plus être en contact avec vous. Tout ce que je vous demande, c'est de respecter ma décision et de ne pas insister. » Et donc, sa réponse n'a mis que quelques minutes à me parvenir, allez vous faire foutre. Et je trouve que ce jeu, justement, sur les variations de ton, les supports, etc., c'est extraordinaire d'avoir réussi à fondre tout ça dans quelque chose qui dure.
Oui, Clay Plumosil, à propos de ce roman de Juan Gabriel Vasquez.
Mais je trouve qu'il y a un autre jeu d'historien, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait de voir comment l'histoire peut travailler nos corps et nos cœurs. Hein. Au cœur de ce récit, il y a ces ruines d'hommes qui sont donc un bout de vertèbre et un bout de boîte crânienne que va toucher l'auteur dans la vraie vie comme dans le roman, et qui sont, je le cite un peu le mémorandum de nos erreurs passées, puisque ce sont les restes humains en fait de ces deux personnages politiques assassinés. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait tout l'ouvrage montre comment l'histoire est une expérience incarnée qu'on peut vivre dans son corps. Mmh. C'était Philippe Artière qui disait l'histoire nous traverse, et je trouve que c'est exactement ce qui se vit dans chacun des destins des personnages
plus
du roman.
Plus ce côté policier, parce qu'il y a quand même ce côté les experts médecine légale. Et quand tu parlais des restes humains, je trouve que aujourd'hui on a l'impression que l'historien devrait être presque une espèce de type capable d'aller
la police scientifique,
voilà extraire les cadavres de leur tombe.
Mais ce qui est intéressant, c'est que par-delà cette expérience qui devrait être quasi scientifico-technique à l'archive, qui est là un bout de corps, il y a aussi le besoin de toucher. À chaque fois, il y a cette scène répétée dans tout le roman où on va sur les lieux où les assassinats ont été commis, on touche le sol, on voit cette vertèbre, on touche la vertèbre, et c'est important de montrer à quel point en fait l'archive contamine l'historien aussi par ce rapport finalement très physique et sensuel.
Pascal Horry.
Victor Massé d'Épinay disait tout à l'heure de Kerbalo, ce n'est pas un imbécile, ça fait penser à la superbe phrase de Chesterton, un fou n'est pas quelqu'un qui a perdu la raison, c'est quelqu'un qui a tout perdu sauf la raison. Donc le complotiste, il a tout perdu sauf la raison, et ça interroge aussi le rationalisme supposé des historiens, ça.
Ça s'appelle donc Le corps des ruines, c'est le dernier roman de Juan Gabriel Vázquez, qu'on a particulièrement aimé dans cette table ronde fiction. Il est traduit de l'espagnol, du colombien, par Isabelle Gugnon aux éditions du Seuil.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte de la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le...
La semaine sanglante, chantée par Germaine Montero, pour nous introduire à la dernière fiction d'histoire de cette table ronde fiction de ce mois. Donc, elle est signée Raphaël Messant, Les damnés de la commune, à la recherche de Lavalette, aux éditions Delcourt, et ça sort la semaine prochaine chez Delcourt. Victor Massé de l'Épinay, vous nous le présentez.
Oui, souvent dans les tables rondes fiction, on se demande comment on va pouvoir parler d'une œuvre sans dévoiler la fin. Là, on ne risque pas de la dévoiler, puisqu'on a tous reçu les épreuves de cette bande dessinée qui sort mercredi prochain, amputé du dernier chapitre.
Alors, j'ai cru comprendre que c'était un tome 1 dans certaines versions.
En plus, c'est le tome 1 d'un récit qui sera finalement en deux tomes. Il nous manque ce dernier chapitre, il nous manque surtout des pages qui vont être, je sais, dans l'album définitif, qui sont les crédits à la fin de cette bande dessinée, les noms des dessinateurs, puisque c'est une bande dessinée sans dessinateur. Raphaël Messant est un graphiste, c'est son métier, sa première bande dessinée, mais il a fait le scénario, les dialogues, on pourrait dire le texte. Mais les dessins de cette bande dessinée sont uniquement des gravures du 19e siècle qu'il utilise. Peut-être qu'il ne faut pas dire qu'il les détourne, mais qu'il les utilise pour...
Parfois,
c'est du détournement.
Voilà, mais il recadre, il extrait.
Ce n'est pas du détournement potache, au sens...
Oui. Il n'a pas rajouté de moustache.
Il construit un récit avec... Alors le récit, en quelques mots, c'est donc ce Raphaël Messant qui découvre un jour... qu'un communard qui s'appelle Lavalette vivait dans son immeuble de la rue Le Sage, dans le quartier de Belleville à Paris. Et il va aller enquêter dans les archives pour essayer de retrouver ce Lavalette et retracer son itinéraire. Et il mêle cette enquête au récit de Victorine B., Souvenir d'une morte vivante, qui a été publié dans les années 50, je crois.
60. Ah non,
60. 60.
Ah, voilà, non, la première version est de 1908,
oui,
je crois.
C'est ça.
Enfin, publié à Lausanne. Hein.
Voilà, c'est ça. Et puis republié par Maspero.
Oui. 1909.
1909, voilà.
Pascal Horry, à propos des damnés de la Commune à la recherche de la Valette de Raphaël Messant.
Alors, c'est effectivement la première bande dessinée. L'auteur assume ce titre, moi je le lui reconnais volontiers. C'est un récit séquentiel où l'image est structurante, donc c'est vraiment de la bande dessinée. C'est tout à fait superbe, moi je suis complètement entré dedans. Je pense que comme c'est un graphiste, il a eu la possibilité parfois de triturer les images, pas simplement en recadrant, mais en jouant avec les personnages et en leur faisant peut-être adopter des postures qu'ils n'ont pas dans les documents initiaux. Cela dit, dans des entretiens, il dit qu'il a 15 000 documents, sous-entendu iconographiques, sur son ordinateur. Tous ne sont pas iconographiques parce que c'est tellement un patchwork que non seulement l'image est empruntée à l'extraordinaire production de gravures de l'époque. Mmh. Il a la chance d'être, et je veux dire la Commune de Paris, si j'ose dire, le siège de 70-71, ont la chance de se situer à l'apogée de la gravure. Hein, de la gravure en particulier reproduite dans les périodiques. C'est extraordinaire quand on se plonge dans les périodiques illustrés de l'époque, on n'en sort pas, c'est tellement fascinant. Mais il a aussi composé avec des photographies qu'il prend aujourd'hui de documents, c'est quand même assez émouvant pour un chercheur.
Il va chercher aux archives, à la BHVP.
Rue Malheur, d'entendre parler.
La bibliothèque historique
de la rue Pavée et du Métron. Bon. Et, alors. Je pense que c'est tout à fait convaincant comme bande dessinée. Par ailleurs.
Dictionnaire graphique du mouvement.
C'est effectivement situable, et je pense qu'il n'est pas graphiste pour rien, dans la continuité du situationnisme, donc qu'il faudrait. Ouais. C'est-à-dire des détournements.
Et donc des détournements.
Situationnistes. Parce que, évidemment, il détourne des images.
On peut penser à certaines pages de Fluide glacial des années 70, qui étaient aussi des détournements de gravures de ces années-là, mais comiques, alors que là, ça ne se veut pas du tout comique.
Tout à fait. Et par ailleurs, il monte aussi des documents d'époque, parce que la fameuse Victorine B, donc Brochet, en fait, qui est morte en 1921, a laissé ses mémoires, peut-être à mon avis réécrites par une plume, mais peu importe, tout à fait émouvantes, où la vie privée de Victorine intervient, puisqu'on parlait tout à l'heure pour Vasquez de ses enfants, et il y a aussi la mort de ses enfants qui intervient en pleine crise de Paris en 71, c'est tout à fait émouvant.
Oui, Fabrice Delmédard, à propos des années de la Commune.
C'est compliqué pour moi d'analyser quand c'est un... J'allais dire quand il n'y a pas de fiction. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression, en lisant ce texte, d'être face à une reprise et une analyse et une réflexion personnelle sur l'histoire. Mais au fond, et en plus l'usage des documents originaux, des gravures, renforce un petit peu cette dimension. Et donc les questions que je me suis posées, au fond, c'est pas des questions tellement sur le rapport histoire-fiction, mais c'est plus des questions sur la façon dont nous avons intériorisé, d'une certaine manière, une vision de gauche de la Commune. Mmh. C'est-à-dire avec le républicanisme, le socialisme, avec le sentiment que la paix c'est le déshonneur. Alors qu'il y a une question que je me suis toujours posée et qui me paraît pour moi une des grandes erreurs historiques.
Non, mais
pour moi,
la grande erreur historique,
je n'ai jamais compris pourquoi Gambetta, qui est républicain, qui s'oppose à l'Empire, avait voulu à ce point poursuivre la guerre déclenchée par l'Empire.
Mais parce que les républicains sont patriotes.
Non, mais j'entends, mais justement, être patriote, c'était vouloir la paix et arrêter ce carnage complètement absurde.
Ça, c'est un regard d'aujourd'hui.
Non, c'est un regard qui, à l'époque, était prôné par certains. Mais ce que je trouve de plus frappant, c'est ça. C'est que ça nous renvoie aux questions historiques. Or, là-dedans, il insiste là-dessus, c'est une vision, et il décrit le traité de Francfort et la position des monarchistes qui, eux, ont compris que le pays voulait la paix et qu'il fallait la paix pour pouvoir se reconstruire après avoir pris une grande claque historique, eh bien, il décrit ça comme le déshonneur. Et c'est vrai que c'est la tradition de gauche qui nous a irrigué.
Vous dites que ça n'est pas une fiction, mais le simple fait de mélanger, par exemple, le journal de Victorine B ou ce texte réécrit de Victorine B avec l'histoire de son enquête sur la Valette, c'est déjà une fiction.
Ouais, mais il y a une chronologie. Enfin bon, si tu veux.
Clyde Plumosil, à propos de ces damnés de la Commune, chez Delcourt, qui sort la semaine prochaine.
Comme l'ouvrage dont on a parlé juste avant de Vasquez, c'est un jeu de pistes. Voilà, à la recherche du soldat Lavalette, quoi, d'une certaine manière. J'ai pas été tout à fait convaincue, moi, par ce jeu de pistes. Autant j'ai été prise dans le roman de Vasquez, autant celui de Messant m'a laissé sur ma faim. Alors, il faut le dire, effectivement, ce sont les épreuves. Il n'y a pas le dernier chapitre. Néanmoins, quand on a lu les mémoires de Victorine B, quand on a connu le parti pris des éditions Maspero, sa collection s'appelait Actes et mémoires du peuple dans les années 60-70 et qui était vraiment des mémoires de lutte pour justement, donc bien sûr, redonner une place aux damnés de l'histoire, mais surtout en leur redonnant voix au chapitre, c'était aussi trouver les moyens de remobiliser un présent. Donc c'est un peu difficile pour moi de remobiliser ce témoignage dans le cadre du livre, mais de pas en faire un outil de fiction plus politique, justement, qui répondrait à des questions en tension de pourquoi la guerre envers et contre tout, alors même que on a une population qui s'exprime à rebours sur ces questions-là. Et du coup, moi, j'ai adoré effectivement ce parti pris de mélanger, d'incruster des sources, des archives d'historiens dans le cadre de la BD. En revanche, et je trouve que c'est très beau cette revisite des graphures, mais je trouve que malheureusement le récit, le scénario manque un peu. Et je trouve qu'on va pas tant vers le passé qu'on est là, on répond à une curiosité d'une plaque de rue, en fait, d'une certaine manière.
Pascal Horry.
Mais peut-être que l'interprétation de Clyde permet de répondre à Fabrice, avec lequel je suis d'accord sur le plan politique, mais c'est pas la question. Parce que, évidemment, quand on lit ça, je dirais, alors soyons clairs, un lecteur de Marianne peut être tout à fait raccord, parce que ça veut dire le patriotisme est à gauche. Et la Commune de Paris, c'est d'abord une expression de patriotisme. Et Rossel, c'est tout à fait cet itinéraire-là. Bon, et pour ceux qui ne sauraient pas qui est Rossel, c'est intéressant de se renseigner. Effectivement.
Non, mais ça permet. Ah bah, c'est gentil, ça s'arrête.
Non, mais je veux dire que allez, le temps passe.
Le temps passe.
51, Emmanuel. Ouais, mais ouais. Je peux développer sur Rossel, mais on va arriver à 9h53. Ouais. Voilà. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que pour Messant, c'est pas un problème, justement. C'est-à-dire que pour lui, qui a, on va dire, le cœur à gauche, bon, le patriotisme passe par là. Et c'est un crime. C'est un crime de vouloir, comme Thiers ou Ferry ou Favre, la paix tout de suite. Donc ça, c'est intéressant pour, j'allais dire, le regard qu'on porte aujourd'hui de façon anachronique, je suis bien d'accord, mais la question n'est pas politique. Là, on est devant, à mon avis, alors ça, je ne serais pas d'accord avec Clyde, devant quelque chose d'assez séduisant sur le plan graphique, avec une logique, parce que sinon, on va dire, mais Tardy dit n'importe quoi aussi sur les guerres de 14-18, on pourrait le conseiller à Jacques Tardy, pour revenir au sujet du début, de lire Stéphane Audouin-Rousseau, mais je pense que ça va lui donner des boutons.
Oh, il faut ça, toujours c'est... lire Stéphane Audouin-Rousseau.
Non, mais à Tardy.
Oui.
Ah, des boutons. Ouais. Et moi quand même.
Et puisque vous avez mentionné La Pendule et que nous arrivons effectivement à la fin ou presque de cette table ronde fiction, vous aviez un coup de cœur en bande dessinée aussi, en plus de ce Raphaël Messant, Pascal Horry.
Là aussi, un tome 1 jubilatoire, me semble-t-il. Voltaire amoureux, ça dit tout.
Ah, j'adore.
De Clément Aubrey.
Excellent. Ah, excellent. Excellent.
Et effectivement, un Voltaire amoureux, mais en même temps politique. Et qui, par exemple, explique en quelques phrases Malebranche et Spinoza tout en gamahuchant, là aussi c'est comme pour Rossel, on va vérifier.
On dans le 18e siècle.
En gamahuchant, une jeune veuve appétissante.
Ah non, mais il y a, en plus, il faut dire dans cette bande dessinée, non, mais il y a un travail.
Ah, bravo.
Non, mais il y a un
les
travail.
Femmes ont
sur
définitivement disparu de cette émission.
Elles sont actrices majeures dans cette bande dessinée. Mais il faut saluer le travail historique qu'il a fait sur les fonds. Parce qu'on a des images de rue, des décors, mais qui sont, j'allais dire, travaillés au millimètre. On sent la documentation. Et alors, l'histoire, elle. Enfin, bon, bravo, Pascal, merci.
Donc, ça s'appelle Voltaire amoureux.
Voltaire amoureux, tome 1 de Clément Aubrerie.
Voilà. Et donc, nous avons parlé dans cette table ronde fiction à la fois du roman et du film tiré du roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, qui est en salle ces temps-ci, du roman formidable de Juan Gabriel Vázquez, Le Cordier ruine au seuil, et de la bande dessinée de Raphaël Messant, Les damnés de la commune à la recherche de la Valette. Et vous le savez, nous terminons toujours le vendredi l'émission par un partenariat avec Rétro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Et nous lisons, en l'occurrence Daniel Königsberg aujourd'hui, un texte tiré des textes de presse. Donc, qui sont numérisés par le site Retro News, un magnifique texte de 1861 du 3 novembre 1861 au lendemain du jour des morts. Il s'appelle Jules Vallès et on le retrouve dans Les damnés de la commune. En l'occurrence, Jules Vallès écrit sur ceux qui meurent dans la rue.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le Figaro. Les morts par Jules Vallès. C'est aujourd'hui que les trépassés donnent audience aux vivants. Aujourd'hui qu'on va leur porter des fleurs et les saluer au cimetière. Moi, j'irai visiter les tombes sur lesquelles personne ne viendra pleurer. J'irai saluer d'un dernier adieu ces inconnus enterrés pêle-mêle dans la fosse commune, que n'a point, à vrai dire, enlevé la mort, mais qu'a tué la vie. Les morts dont je parle n'ont point été assassinés, mais brisés, écrasé par la fatalité. Le monde n'a jamais vu dans les malheureux que des révoltés. La misère ne lui apparaît qu'à travers le brouillard pâle des philanthropies ou la fumée rouge des révolutions, l'écume aux lèvres, la poudre aux mains. À côté de cette misère classique qui a une histoire, il y en a une autre. La vraie, l'affreuse, l'horrible. Je veux parler de celle qui n'a point de drapeau, ne jette point de cris ni d'éclairs, de celle qui tue ses victimes à petit feu, de celle qui, tous les ans, couche dans la poussière et dans la boue un bataillon d'hommes, qui, après avoir éteint la flamme dans le cerveau, brisé le cœur dans la poitrine, dévore les poumons, boit le sang. Oui, il y a dans ces cimetières des cadavres de gens qui ne sont point morts pour avoir abusé de la vie, point morts de maladie ou de vieillesse, de douleur ou d'amour, mais morts de froid, morts de faim. À peine on en compte un cependant qui, dans cette vie de privation et de souffrance, se soit écarté du devoir et violé la loi. Ils ont laissé par les chemins des lambeaux de leur fierté, mais ils ont encore le droit de porter le front haut. L'honneur ne s'est point échappé par le trou des blessures, et c'est ainsi qu'elles s'écoulent les vertes années dans le doute, l'amertume et le désespoir. Ainsi se passe la jeunesse, et l'on a déjà les cheveux gris, l'estomac ruiné, le cœur fané, qu'à peine on a 30 ans. Elle vient tout tuer, cette misère, l'amour comme l'ambition. Ni fleur, ni parfum, ni maîtresse. Ah, plaignons-les, ces jeunes hommes étendus, là, dans le cimetière, qu'une femme n'a jamais consolé avec sa grâce, aimée avec son cœur, qui, à leur lit de mort, au moment de sombrer, quand ils ont senti qu'ils en avaient fini avec la vie, n'ont eu personne à leur côté pour apaiser leurs regrets aux portes du néant. Le monde croit peu à ces existences lamentables, à ces fins sinistres. C'est leur faute, crie notre égoïsme gêné par ce spectacle et ces images. Qui nous l'a dit? Savons-nous ce que fut leur enfance? Comment s'est passée leur jeunesse? À quelle heure ils firent naufrage? Comment ils se sont perdus, corps et âme, dans cette tempête sans éclair? Et pour cela, faut-il qu'ils meurent? Nous n'affamons pas les prisonniers, nous ne tuons pas les fous. Qu'il devienne fou ou qu'il tue. Il aura un lit et du pain. D'ici là, il se traînera malade, enlaidi, épuisé, humilié. Mettez un homme dans la rue avec un habit trop large sur le dos, un pantalon trop court, sans faux col, sans bas, sans un sou. Eût-il le génie de Machiavel, de Talleyrand, il sombrera dans le ruisseau.
Un texte de Jules Vallès, daté du 3 novembre 1861, qu'on peut retrouver ce week-end, si vous le voulez, en allant sur le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. C'est la séquence « C'était à la une » de la Fabrique de l'Histoire, tous les vendredis. Une séquence qui a été réalisée par Séverine Cassard. Cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Victoria Asper nous a accompagnés à la technique aujourd'hui. Et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlerons de 1967, celle qui précède 1968, c'était il y a 50 ans. Et l'histoire continue ce week-end sur France Culture, en particulier samedi, bien évidemment, avec Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney, qui recevra Michel Binoc et qui parleront tous les deux des angoisses de la décadence à la fin du 19e siècle. Et à 11h, vous y retrouverez d'ici peu Culture Monde par Tiffaine de Roquigny, qui parlera du Kurdistan.